Chapitre 26. Comme si le monde était de la brume. Même si Jouet traversait la forêt à un bon rythme, Tuone restait dans son sillage, avec Seloussia à ses côtés bien entendu, afin d'entendre sa conversation avec Talmanès. Mais ses pensées compliquaient parfois sa mission d'espionnage. Ainsi, Jouet avait grandi avec le dragon réincarné, le vrai de vrai. Pourtant, il prétendait ne rien savoir de Randall Thor. Un mensonge que Tuone n'avait pas détecté, et pourtant, elle était très bonne à ce jeu. À Séandar, un mensonge détecté avec du retard pouvait vous coûter la vie, ou vous faire finir sur un marché aux esclaves, du mauvais côté de la transaction. Si elle avait su que cet homme mentait comme il respirait, Tuone l'aurait giflé, plutôt que de lui offrir un baiser. Un sacré choc, cette expérience, dont elle n'était pas sûre d'être déjà remise. Si Seloussia lui avait décrit les effets d'un baiser donné par un homme, la réalité dépassait de loin ses récits. Mais l'espionnage devait reprendre ses droits.
Tu as laissé le commandement à Estéan ?
S'écria soudain Jouet. Dérangé par le vacarme, des colombes s'élevèrent des broussailles clairsemées qui bordaient la piste.
Ce type est un crétin !
Pas tant que ça, si on en croit Daerid,
répondit très calmement Talmanès. Pas du genre à s'exciter pour un rien, il sondait les alentours, tous les sens aux aguets. Régulièrement, il jetait un coup d'œil au ciel. Des Raken, il n'en avait jamais vu. Mais ça ne l'empêchait pas de s'en méfier. Niveau débit, il était encore plus rapide que Jouet. Tous ces gens étaient des moulins à paroles.
« Matt, Carlomine et Raymond ne sont pas débiles. Enfin, pas à temps plein en ce qui concerne Raymond. Mais tu les vois écouter un roturier, même s'il en sait 10 fois plus long qu'eux sur l'art de la guerre. Et Dorion en serait capable. J'ai tenu à le garder près de moi. »
La main rouge qu'arborait Talmanès intriguait Tuone, et même beaucoup plus que ça. L'homme descendait d'une antique et digne maison, dont il couvrait le nom de gloire jour après jour. Mais pour elle, Jouet était le bon choix, ça ne faisait aucun doute. Il se souvenait du visage d'Arthur Eldefaucon. Ça semblait impossible, pourtant, cette dénégation ne valait rien. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. La main rouge était-elle le sceau de Jouet? Mais dans ce cas, que voulait dire sa bague? Quand elle l'avait vue pour la première fois, Tuone avait failli s'évanouir. Enfin, façon de parler. Depuis qu'elle était sortie de l'enfance, des choses pareilles ne lui arrivaient plus.
« Tout ça va bientôt changer, Talmanès, »
marmonna Jouet.
Un bienfait, parce que ça dure depuis trop longtemps. Si Raymond et les autres commandent des bataillons, désormais, ça fait 2 des généraux d'étendard, et de toi un lieutenant général. Daerid commande 5 bataillons, ce qui en fait aussi un général d'étendard. Raymond et les autres seront obligés de lui obéir, ou ils pourront tout aussi bien rentrer chez eux. Avec l'approche de Tarmon Gaidon, je ne veux pas finir par me faire humilier, voire tuer. Le crâne ouvert en deux parce que des imbéciles refusent d'écouter quelqu'un qui ne possède pas de fichu terre.
Talmanès fit volter son cheval pour contourner un parterre de bruyère. Les lianes entremêlées arboraient des épines très longues et très crochues.
Ils n'aimeront pas ça, Matt. Mais ils ne rentreront pas chez eux, et tu le sais très bien. As-tu un plan pour nous faire sortir de l'Altara?
J'y réfléchis,
marmonna Matt.
Oui, ça chauffe sous mon crâne. Ces arbalétriers montés, Talmanès, ce n'est pas une bonne idée. Primo, ils ont l'habitude de marcher sur leurs propres jambes. Secondo, la moitié au moins auront du mal à rester en selle. Si nous devons avancer vite. Et nous le devrons certainement. Dans une forêt comme celle-là, il pourrait être utile. Idem partout où il y a de quoi se mettre à l'abri. Mais sur les terrains découverts, sans piquer pour les défendre, ils seront laminés avant d'avoir pu tirer un deuxième carreau.
Dans le lointain, un lion rugit, ou tout ça peut-être bien. Quoi qu'il en soit, ce fut suffisant pour effrayer les chevaux, qui hennirent nerveusement et piaffèrent un peu. Jouet se pencha sur l'encolure de son cheval et sembla lui murmurer à l'oreille. En tout cas, l'effet fut immédiat. Donc, ce n'était pas une autre de ses vantardises. Il savait que dire aux équidés. Remarquable.
« Matt !»
se défendit Talmanès dès que sa monture se fut calmée.
« J'ai choisi des hommes doués pour l'équitation. Et tous sont équipés de la nouvelle manivelle. »
La voix de l'homme vibrait d'excitation. Même les mâles les plus taciturnes se laissaient emporter par la fascination des armes.
« 3 tours simplement et la corde est tendue. Avec de l'entraînement, on peut tirer jusqu'à 7 ou 8 carreaux à la minute. Avec une arbalète lourde !»
Seloussia eut un petit bruit de gorge. Elle avait raison de s'alarmer. Si Talmanès ne mentait pas, et Tuone ne voyait pas pourquoi il l'aurait fait, il fallait absolument qu'elle se procure une manivelle miracle pour la faire copier par ses artisans. Les archers tiraient plus vite que les arbalétriers, certes, mais il fallait bien plus de temps pour les former. Du coup, ils se retrouvaient en infériorité numérique.
« 7 ?»
s'exclama Jouet.
« Ce serait plus que précieux. Mais je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. Jamais !»
Pour une raison inconnue, il semblait stupéfié.
« Comment est-ce possible ?»«
7 ou 8 ?»
rappela Talmanès.
Au Mourandi, nous sommes tombés sur un type passionné de mécanique, qui voulait venir à Kamine avec un chariot plein d'inventions de son cru. Dans cette ville, il y a une sorte d'école réservée aux érudits et aux inventeurs. Ayant besoin d'argent, il a vendu aux armuriers de la compagnie le secret de sa manivelle miracle. La possibilité de cribler un ennemi de projectiles en toutes circonstances. Sur un champ de bataille, plus on tue de loin et mieux ça vaut.
C'est Lucia leva les mains pour que Tuan puisse les voir, puis ses doigts bougèrent à toute vitesse. C'est quoi cette compagnie dont il parle tout le temps?
Pour s'adresser à la fille des neuf lunes, elle respectait le bon protocole, quand un inférieur parlait à son supérieur, mais son impatience restait palpable. En toutes occasions, il en allait ainsi ces derniers temps. Si Tuan lui cachait peu de choses, elle ne pouvait quand même pas tout lui dire. Histoire de tenir parole, Seleucia était bien capable de la ramener de force à Eboudar. Les devoirs du nombre comme elle étaient innombrables, et ils impliquaient parfois le sacrifice ultime. Si possible, Tuan ne voulait pas avoir à ordonner l'exécution de Seleucia. Elle répondit aussi selon le protocole.
« L'armée personnelle de jouets, à l'évidence. Écoutons, et nous en apprendrons davantage. »
Imaginer jouer à la tête d'une armée était étrange. À l'occasion, il se montrait charmant, voire fin et spirituel, mais il restait un bouffon et surtout un vaurien. Dans le rôle du gentil chiot de Tailin, il semblait dans son élément. Cela dit, il avait été comme un poisson dans l'eau avec les artistes de la ménagerie, avec les marades d'Aman, avec les deux d'Aman en fuite, et même dans la maudite taverne. Quelle déception ce soir-là. Pas l'ombre d'une rixe. L'escarmouche qui avait suivi n'avait rien changé. Une bagarre de rue, c'était si commun, comparé à une empoignade d'ivrogne. Le massacre devant la taverne s'était d'ailleurs révélé moins distrayant que prévu. Les rumeurs que Tuan avait entendues à Eboudar semblaient donc très exagérées. Durant ces événements, Jouet avait cependant révélé une facette inattendue de sa personnalité. Un homme redoutable, mais affligé d'une étrange faiblesse. Bizarrement, la fille des neuf lunes trouvait ça attirant.
« Un bon conseil, » fit distraitement Jouet, en tirant sur le foulard noir noué autour de son cou.
Tuan s'interrogeait depuis le début sur la cicatrice qu'il essayait en vain de cacher. Sa démarche était compréhensible, mais pourquoi avait-il été pendu et comment avait-il survécu? Tuan ne pouvait pas le lui demander. Lui en faire rabattre un peu ne la dérangeait pas, au contraire, c'était un plaisir, parce que ça marchait à tous les coups. Mais elle ne voulait pas le détruire, pour le moment, en tout cas.
« Tu ne le reconnais pas, ce conseil ?»
s'étonna Talmanès.
« Il vient de ton livre. Le roi Rouedran en a deux exemplaires dans sa bibliothèque, et il l'a mémorisé. Selon lui, ça l'aidera à devenir un grand capitaine. » Très satisfait de notre accord, il a fait imprimer et relier un exemplaire afin de me l'offrir.
Jouet ne cacha pas sa surprise.
Mon livre?
Celui dont tu nous as parlé, Matt. Brouillard et acier, de Madoc Comadrine.
Ah, ce bouquin-là, oui. Je l'ai lu il y a longtemps.
Tuan grinça des dents, ses doigts ondulèrent, formant des mots.
Quand cesseront-ils de parler littérature pour passer aux choses sérieuses? Écoutons, et nous en apprendrons davantage, répondit Seleucia.
Tuan la foudroya du regard, mais face à son air innocent, elle ne put pas continuer. Elle gloussa, tout doucement, pour que Jouet ne s'aperçoive pas qu'elle lui collait au basque, et Seleucia l'imita, tout aussi discrètement. Jouet s'était tu cependant, et Talmanès ne semblait pas vouloir relancer la conversation. La colonne continua donc en silence, si on exceptait les bruits de la forêt, pour l'essentiel, des trilles d'oiseaux et des pépiments d'écureuils. Tuan se concentra en quête d'augure, mais rien ne retint son attention. Des oiseaux aux plumes brillantes voltaient entre les arbres, et à un moment, les cavaliers passèrent non loin d'un troupeau de 50 bêtes aux longues cornes droites plantées de chaque côté de la tête. Les ayant entendus venir, les bêtes étaient prêtes à se défendre. Un taureau, le nom que lui donna plus tard Matt, racla le sol avec ses sabots et tendit la tête. Jouet et Talmanès firent un grand détour pour éviter tout problème. Curieuse, Tuan jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Les bras rouges, il faudra qu'elle demande à Jouet pourquoi on les appelait ainsi, se chargeaient des chevaux de bas. Mais Gordéran avait levé son arbalète, les autres encochant une flèche dans leur arc. Donc, ces bêtes étaient bien dangereuses. Très peu d'augures ayant un lien avec les troupeaux, Tuan fut soulagé quand ils eurent laissé celui-là derrière eux. Pas question de venir jusque-là pour être tué par une sorte de vache, ou de perdre Jouet à cause d'une paire de cornes. Au bout d'un moment, Tom et Aludra se portèrent à la hauteur de Tuan. La jeune femme daigna lui jeter un regard, puis elle continua sans tourner la tête. Encadré par des tresses piquetées de perles brillantes, le visage de la Tarabonaise se fermait toujours lorsque ses yeux se posaient sur Tuan ou sur Seleucia. Donc, à l'évidence, elle faisait partie de la faction qui n'acceptait pas le retour. Les yeux rivés sur Jouet, Aludra semblait satisfaite. Comme si elle avait reçu confirmation de quelque chose, peut-être. Pourquoi Jouet l'avait-il emmenée? Pas pour ses feux d'artifice, à coup sûr.
Ils étaient plutôt beaux, certes, mais très loin des feux du ciel générés par une damane, même débutante. Tom Merrilin paraissait beaucoup plus intéressant. Pour commencer, c'était un espion expérimenté. Ça sautait aux yeux. Qui l'avait envoyé à Éboudard ? La Tour Blanche ? L'hypothèse la plus probable. Il passait peu de temps avec les soi-disant Aes Sedai, mais un bon espion, justement, ne se serait pas trahi en les suivant comme leur ombre. La présence du trou vert inquiétait Tuon. Tant que la dernière Aes Sedai ne porterait pas un Adam, la tour resterait une menace. À ce titre, il arrivait à Tuon de se demander si Jouet n'était pas partie prenante d'un complot ourdi par les sœurs. C'était impossible. Sauf si certaines d'entre elles se révélaient omniscientes, mais, en sourdine, l'inquiétude demeurait.
« Une étrange coïncidence, pas vrai, maître Merrilin ? Rencontrer une partie de l'armée de Jouet dans une forêt, en Altara ?»
Tom lissa sa longue moustache, sans parvenir à dissimuler son fin sourire.
« C'est un taverne, madame, et on ne peut jamais prévoir ce qui se passera autour de ces gens-là. Voyager avec l'un d'eux, par exemple, est toujours fascinant. Matt est enclin à trouver ce dont il a besoin quand il en a besoin, et parfois même avant d'en être conscient. »
Tuon dévisagea le trou vert, qui ne semblait pas plaisanter.
« Qu'est-ce que c'est censé signifier ?»
Le vieil homme écarquilla les yeux de surprise.
« Tu ne le sais pas ? Pourtant, on affirme qu'Arthur Eldefaucon était le plus grand taverne de l'histoire, peut-être même l'égal de Randall Thor. Je pensais que tu étais bien placé pour... Eh bien, si tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. La trame se tisse autour des tavernes. En un sens... Elle se sert d'eux pour garantir que le tissage du monde ne dévie pas de sa trajectoire, et peut-être pour corriger les défauts qui risqueraient de s'y propager. Une Aes Sedai expliquerait ça bien mieux que moi.
Comme si Tuon allait s'abaisser à dialoguer avec une marade d'Aman, ou pire encore, une d'Aman en fuite.
« Merci, »
dit-elle poliment au trou vert.
« Je crois en avoir assez entendu. »
Taverne, quelle idiotie. Ces gens et leurs besoins permanents de supériorité. Un petit oiseau marron, sans doute un pinson, s'envola d'un grand chêne et tourna trois fois au-dessus de la tête de Jouet avant de filer à tire-d'aile. L'augure qu'attendait Tuon. Elle devait rester près de Jouet. Cela dit, elle en avait l'intention depuis le début. Elle avait donné sa parole, jouant selon les règles, et de sa vie, elle ne s'était jamais parjurée. Un peu plus d'une heure après le départ, alors qu'un oiseau gazouillait devant la colonne, Seleucia désigna du doigt la première sentinelle. Un arbalétrier caché au sommet d'un chêne, une main en coupe juste au-dessus de la bouche. Ce n'était pas un oiseau qui gazouillait, donc. D'autres trilles ponctuèrent la progression des cavaliers, qui entrèrent bientôt dans un petit camp. On n'y trouvait pas de tente, mais les lances étaient rangées en faisceaux, et les chevaux, attachés à une corde tenue par des piquets, attendaient parmi les arbres, non loin des couvertures de leurs cavaliers, une selle ou des fontes posées devant chacun d'eux. Les soldats n'auraient pas besoin de beaucoup de temps pour démonter le camp et se mettre en route. Très modeste, leur feu produisait un minimum de fumée. Dès qu'ils virent les cavaliers, des hommes en plastron vert, la fameuse main sur les manches de leur veste et un foulard rouge noué autour du bras gauche, se levèrent les uns après les autres. Tuon vit des visages parcheminés barrés par une ou plusieurs balafres et d'autres lisses comme celui d'un bébé. Tous ces hommes regardaient Jouet avec de la ferveur, oui, il n'y avait pas d'autre mot. Des murmures coururent dans les rangs.
« C'est le seigneur Matt !»
Le seigneur Matt est de retour!
Le seigneur Matt nous a retrouvés!
Le seigneur Matt!
Tuon échangea un regard avec Seleucia. L'affection qu'exprimaient ces soldats ne pouvait pas être feinte. Très rare, elle indiquait souvent un total relâchement de la discipline. L'œuvre d'un chef laxiste, quoi. L'armée de Jouet, s'était dit Tuon, devait être un ramassis d'ivrognes et de joueurs invétérés. Mais ces guerriers n'étaient pas plus négligés que n'importe quel régiment après la traversée d'une chaîne de montagnes et des dizaines de lieues de chevauchée. En outre, aucun homme n'avait du mal à tenir debout à cause de l'alcool.
« Pour échapper au Séan Chanien, dit Talmanès, nous campons le jour et chevauchons la nuit. Si nous n'avons pas vu de monstres volants, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Le gros des Séan Chaniens semble être plus loin au nord et plus loin au sud, mais ils ont un camp à une dizaine de lieues d'ici, et on murmure qu'on y trouve une créature volante.
« Tu sembles très informé, »
dit Jouet, sans cesser d'observer les soldats qu'il dépassait. Il hocha soudain la tête, comme s'il venait de prendre une décision. L'air sinistre, il paraissait résigné. Pourtant, ce n'était pas son genre.
« Je le suis, Matt. J'ai avec moi la moitié des éclaireurs, et j'ai enrôlé les altariens qui combattaient les Séanchaniens. La plupart volaient des chevaux, pour l'essentiel, mais quelques-uns voulaient vraiment avoir une chance de repousser les envahisseurs. Du coup, je sais où se trouvent presque tous les camps Séanchaniens, d'ici jusqu'au défilé de Malvide, tout à fait au sud. »
Sans crier gare, un homme se mit à chanter, et d'autres se joignirent à lui.
« À la bière et au vin !» J'adresse une pensée, ainsi qu'à la beauté de troublantes chevilles. Mais mon plus grand bonheur restera de danser avec le grand faucheur quelques pas de quadrille.
En un clin d'œil, des milliers de voix s'unirent pour chanter la suite.
Sans craindre le hasard, nous lancerons les dés. Qu'elles soient grandes ou non, nous aimerons les filles, avant de suivre Matt quand il ira danser avec le grand faucheur quelques pas de quadrille.
Sans craindre le hasard, nous lancerons les dés. Qu'elles soient grandes ou non, nous aimerons les filles, avant de suivre Matt quand il ira danser avec le grand faucheur quelques pas de quadrille.
Sans craindre le hasard, nous lancerons les dés. Qu'elle soit grande ou non, nous aimerons les filles, avant de suivre Matt quand il ira danser avec le grand faucheur quelques pas de quadrille.
Les soldats finirent en criant de défi, en riant et en se tapant sur l'épaule. Au nom de la lumière, qui était ce grand faucheur? Serrant ses rênes dans la main gauche, Matt leva bien haut la vieille lance qu'il tenait de la droite. Cela suffit pour ramener le silence. Du laxisme chez ce chef? Sûrement pas. Les soldats pouvaient apprécier leurs officiers pour d'autres raisons, mais celle-ci ne semblait pas pouvoir s'appliquer à jouer.
« Ne les informons pas de notre présence, tant que nous n'aurons pas décidé qu'ils doivent la connaître !»
cria Jouet. Pas comme un orateur qui cherche à faire un effet, mais simplement pour que tout le monde l'entende. À l'intention de leurs camarades placés trop loin, les hommes reprenaient les propos de leur chef et les faisaient passer.
« Nous sommes très loin de chez nous, mais j'ai bien l'intention de nous y ramener. Alors préparez-vous au départ, je vais vous déplacer très vite. La compagnie de la main rouge peut être plus rapide que n'importe qui, et nous le prouverons !»
Il n'y eut pas de vivate, mais un raz-de-marée de hochements de tête. Jouet se tourna vers Talmanès.
Tu as des cartes de la région?
Les meilleures qui existent, oui. La compagnie a ses propres cartographes, désormais. Maître Roidel avait déjà tout ce qu'il fallait, de l'océan d'Arit à la colonne vertébrale du monde. Et pendant que nous traversions les Damona, ses assistants à lui ont établi de nouvelles cartes. Ils ont même cartographié l'est de l'Altara, en incluant ce que nous savons sur les Céanchaniens. La plupart des camps sont provisoires, cependant. Les étapes pour des armées en mouvement.
Séleucia s'impatienta sur sa selle. Recourant au protocole le plus hiérarchique, John forma un mot avec ses doigts.
« Patience !»
Apparemment impassible, la fille des Neuflunes bouillait de rage. Savoir où campaient des soldats, c'était avoir une bonne idée de leur destination finale. Mais il y aurait bien un moyen de brûler ces cartes. C'était aussi important que voler une manivelle miracle.
« Je veux parler avec Maître Roidel !»
dit Jouet. Les soldats vinrent prendre en charge les chevaux. Un moment, une grande confusion régna autour des cavaliers. Un type édenté saisit les rênes d'Akain et attendit patiemment que Tuan ait fini de lui donner des consignes. Sa précieuse jument, il ne fallait pas la traiter n'importe comment. L'homme s'inclina en foudroyant Tuan du regard. Sur ce continent, les gueux se croyaient les égaux de n'importe qui. Séleucia donna le même genre d'instruction au jeune homme mince qui s'empara des rênes de Bouton de Rose. Un nom approprié, estimait-elle, pour le cheval d'une Sojin. Le jeune soldat reluqua la poitrine de Séleucia jusqu'à ce qu'elle le gifle. Et pas à moitié. Avec un sourire, il se massa la joue puis s'éloigna, Bouton de Rose tenu par la bride. Tuan soupira à pierre fendre. Pour Séleucia, c'était parfait. Pour elle, souffleter un roturier serait une source de honte, de quoi garder les yeux baissés des mois durant. Très vite, cependant, elle se retrouva assise sur un tabouret, Séleucia derrière elle. Le robuste Lopine leur proposa une tasse d'infusion bien noire, puis il s'inclina comme il fallait, devant chacune d'entre elles. Un rien pas assez profondément, mais il avait fait de son mieux. Le breuvage était sucré à la perfection, sans excès pour Tuan. Mais après l'avoir servi si souvent, l'homme connaissait ses goûts. Autour des deux Céanchaniennes, tout le monde s'agitait. À un moment, Talmanès eut de brèves retrouvailles avec Nérim, un homme aux cheveux gris qui, semblait-il, avait été son serviteur. Apparemment, des retrouvailles heureuses, puisque le domestique d'habitude taciturne alla jusqu'à se fendre d'un sourire. Pour des effusions de ce genre, estima Tuan, il était plus convenable d'attendre des temps privés. Leilouin et Domon autorisèrent Oliver à explorer le camp avec Maître Charin, Juilin et Terra. Pour se dégourdir les jambes, Tom et Aludra se joignirent à l'expédition. Puis ils vinrent s'asseoir près de Tuon et Séleucia. Un choix délibéré, puisque Leilouin alla jusqu'à regarder ouvertement la fille des Neuf Lunes. Un long moment durant, en plus de tout. Si Séleucia feula dangereusement, Tuon ignora la provocation et fit signe à Maîtresse Anan de venir s'installer à côté d'elle. Au bout du compte, les traîtresses seraient châtiées, tout comme le voleur. Les esclaves rendus à leur propriétaire, la Marat d'Aman porterait un Adam. Mais tout ça devrait attendre, parce qu'il y avait plus urgent. Trois officiers approchèrent, tous de jeunes nobles arborant la main rouge sur leur veste sombre. À grand renfort d'éclats de rire et de tapes sur l'épaule, un signe d'amitié sur ce continent, semblait-il, ils conversèrent un moment avec Jouet. Tuan identifia assez vite les trois militaires. Le grand et mince type à la peau sombre était Edorion.
remarquable pour sa constante gravité, sauf quand il lui arrivait de sourire. Large d'épaules, Raymond, lui, rigolait presque en permanence. Carlomine, grand et mince, faisait montre de plus de retenue. Alors qu'Edorion était glabre, Raymond et Carlomine arboraient une barbe en pointe brillante comme si elle était huilée. Avec un bel ensemble, tous étaient humblement inclinés devant les Aes Sedai, et même devant Bétamine et Seta. Tuon en secoua la tête de consternation.
« Je te l'ai dit et redit, » souffla maîtresse Anan.
« Ce monde ne ressemble pas au tien, mais tu refuses toujours de le croire, pas vrai ?»«
Les habitudes, même si elles remontent à longtemps, peuvent être changées quand il le faut. »
« Ne peut-on pas en dire autant pour ton peuple ?»«
On peut toujours essayer, oui. »
Tuon en resta là. Pourtant, en règle générale, elle appréciait ses apartés avec maîtresse Anan. Bien sûr, elle était contre le port de l'Adam pour les marades d'Aman, comme on pouvait s'y attendre. Et elle voyait d'un mauvais œil la possession de Daco Valley, mais avec elle, on pouvait débattre sans se quereller. Sur quelques points, Tuon s'était même rangée à ses arguments. À force, elle espérait gagner cette femme à sa cause. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qui comptait, c'était jouer. Maître Roidel se montra enfin. Le visage rond et les cheveux grisonnants, le gaillard avait du mal à faire tenir sa bedaine sous sa veste noire. 6 jeunes types le suivaient, chacun portant un long étui cylindrique en cuir.
« Seigneur, je viens avec toutes les cartes de l'Altara dont je dispose, »
dit-il à Talmanès en s'inclinant. Comme tout le monde ici, il parlait plus vite que son ombre. Les gens faisaient-ils des concours de vitesse ?
Certaines couvrent la totalité du pays, d'autres une région bien précise. Les meilleures, ce sont les miennes, bien sûr, réalisées ces dernières semaines. Le seigneur Matt va te dire ce qu'il veut voir,
fit Talmanès.
Tu désires qu'on te laisse seul, Matt?
Mais Jouet était déjà en train de s'adresser à Roidel. Ce qui l'intéressait, c'était la carte où figuraient les camps d'essai alchaniens. En quelques secondes, celle-ci fut sortie de son cylindre puis déroulée sur le sol. Assis sur les talons, Jouet commença à l'étudier. D'un geste, Maître Roidel fit signe à un de ses assistants d'aller lui chercher un tabouret. S'il avait tenté d'imiter Matt, tous les boutons de sa veste auraient sauté. Il se serait probablement retrouvé sur les fesses. Tuon fixa avidement la carte. Comment mettre la main dessus? En riant comme si être ignoré était la chose la plus amusante du monde, Talmanès et les 3 officiers approchèrent de Tuon. Curieuses, les Aes Sedai firent cercle autour de la carte, jusqu'à ce que Jouet leur ordonne de cesser de regarder par-dessus son épaule. Du coup, les sœurs s'écartèrent un peu. Bétamine et Seta les suivant à distance et conversèrent à voix basse en jetant régulièrement des coups d'œil à Jouet. S'il avait vu leur expression, surtout celle de Jolin, il aurait eu de quoi s'inquiéter, même en tenant compte de l'incroyable Terangréal qui le protégeait, selon les dires de maîtresse Anan en tout cas.
« Nous sommes environ ici, c'est ça ?»
dit Jouet en désignant un point du bout d'un index. Maître Roidel acquiesça.
« Donc voici le camp où est censé être un Raken, le monstre volant, je veux dire. »
Un autre hochement de tête.
« Parfait. Comment est ce camp? Combien de soldats à l'intérieur ?»«
À ce qu'on dit, seigneur, c'est un camp de l'intendance, pour réapprovisionner les patrouilles. »
Son assistant revenant avec un tabouret pliant, le cartographe s'assit sans dissimuler son soulagement.
« On parle d'une 100aine d'hommes, seigneur, en majorité des altariens, et du double de travailleurs. Mais par moment, il peut y avoir jusqu'à 500 militaires en même temps. »
Un homme prudent, ce Roidel. Devant Tuon, Talmanès fit son étrange révérence, avec un pied devant l'autre, et ses 3 compagnons l'imitèrent.
« Madame, » dit Talmanès, « Vanil m'a informé de votre situation et de la promesse que vous a faite le seigneur Matt. Sachez qu'il tient toujours parole. »«
Ça, on peut le dire, madame, »
renchérit Edorion.
« Toujours !»
Tuon fit signe à l'officier de s'écarter, afin qu'elle puisse continuer à observer Jouet. Surpris, il obtempéra, mais, d'une étrange façon, regarda Jouet, puis Tuon. La fille de Neuflun le foudroya du regard. Pas question d'encourager ses hommes à imaginer des choses. Jusque-là, tout n'avait pas marché comme prévu, et il restait un risque que ça tourne au désastre.
« Alors, Jouet est-il ou non un seigneur ?»
demanda Tuon.
« Je vous demande pardon ?» fit Talmanès. « Vous pouvez répéter la question ? Désolé, mais je dois avoir les oreilles bouchées. »
Tuon répéta posément sa question. Là encore, ses interlocuteurs semblèrent avoir du mal à comprendre.
« Que la lumière brûle, mon âme !»
s'écria enfin Raymond.
« Bien sûr que non, sauf à nos yeux. Pour nous, oui, c'est un seigneur. »«
Il a horreur de presque tous les nobles !»
intervint Carlomine.
« Je suis honoré de faire partie des exceptions. »«
C'est un honneur, en effet !»
approuva Raymond. Et Dorian se contenta de hocher la tête.
« Les soldats, Maître Roidel !»
fit Jouet.
« Dites-moi où sont les soldats,
et pas quelques centaines seulement.
Que fait-il donc ?
Marmonna Tuon, le front plissé.
Même s'il savait localiser tous les soldats séanchaniens, il ne pourrait exfiltrer tant d'hommes à leur nez et à leur barbe. Il y a en permanence des patrouilles et des vols de Raken.
Une nouvelle fois, les officiers prirent leur temps avant de répondre. Tuon devait-elle essayer de parler plus vite pour qu'ils comprennent ?
Sur près de 100 lieues, nous n'avons pas vu l'ombre d'une patrouille, et pas plus de... Raken. Raken, c'est bien le nom.
Et Dorion dévisagea outrageusement Tuon. Celui-là, il était trop tard pour l'empêcher de s'imaginer des choses.
« Si je connais bien Matt, »
fit Raymond en souriant,
« il nous prépare une bataille. La compagnie de la Main Rouge va recommencer à ferrailler. Il était plus que temps, si vous voulez mon avis. »
C'est Lucia grogna de désapprobation, et maîtresse Anna lui fit écho. Tuon dut admettre qu'elles avaient raison.
« Une bataille ne vous permettra pas de sortir du pays, »
fit-elle remarquer.
« Dans ce cas, »
intervint Almanès,
« Matt prépare carrément une guerre. »
Les trois officiers approuvèrent du chef, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Raymond semblait même trouver ça amusant, mais il était du genre à rire de tout.
« 3 000 ?»
lança Jouet.
« Tu es sûr, maître Roidel ?»«
Raisonnablement sûr, ça suffira. S'ils ne sont pas partis trop loin, Vanning pourra les localiser. »
Alors qu'elle observait Jouet, concentré sur la carte, Tuon le vit soudain sous un nouveau jour. Un bouffon, lui, non. Prisonnier dans la stalle d'un cheval, un lion avait l'air ridicule. Mais relâché dans la nature, il changeait du tout au tout. Jouet était dans son élément, désormais. Tuon frissonna. Avec quel genre d'homme, exactement, s'était-elle liée? Après si longtemps, elle dut reconnaître qu'elle n'en savait toujours rien. Malgré son manteau doublé de fourrure, la nuit était encore assez froide pour faire frissonner Perrine. Autour du croissant de lune, un halo indiquait qu'il repleuvrait avant longtemps. Avec les nuages, la lumière de l'astre nocturne était assez chiche, mais elle suffisait pour les yeux du mari de Feil. Perché sur marcheur, juste à la lisière des arbres, il observait les quatre grands moulins à vent en pierre grise qui se dressaient au sommet de la colline, leurs ailes blanches passant de l'ombre à la lumière au rythme de leur rotation. Les engrenages de ces moulins faisaient un vacarme infernal. De toute évidence, les Chaïdos ignoraient qu'il fallait les graisser régulièrement. Au-delà de quelques fermes abandonnées bordées de champs stériles, les Chaïdos les avaient ensemencées, certes, mais trop tôt, par un climat si pluvieux, l'aqueduc se dressait tel un géant de pierre. Malden se trouvait à une colline de là, en direction de l'ouest. Perrine s'assura de la présence, à sa ceinture, du lourd marteau qui remplaçait sa hache. Malden et Feil. Dans quelques heures, il devrait ajouter un 54e nœud, à la lanière de cuir dont il ne se séparait jamais. Toujours frissonnant, il envoya une sonde mentale.
« Aube enneigée, vous êtes prêts ?»
demanda-t-il.
« Et vous êtes-vous assez approchés ?»
Les loups évitaient les villes, même en temps normal. La forêt environnante grouillant de Chaïdo, des chasseurs en majorité, il restait le plus loin possible de Malden.
« Oh science, jeune taureau !»
répondit une voix mentale un peu agacée. Aube enneigée était du genre irascible. Couvert de cicatrices, ce mâle dominant pouvait se vanter d'avoir jadis tué un léopard en combat singulier. Rattrapé par l'âge, il souffrait de rhumatisme qui l'empêchait souvent de dormir.
« Dans 2 jours, as-tu dit, ne t'en fais pas, nous serons là. À présent, si tu me laissais me reposer, demain, nous devrons chasser beaucoup, puisque nous n'aurons plus le temps ensuite. »
Au lieu de mots, le vieux loup envoyait à Perrine des images et des odeurs, bien entendu. 2 jours, c'était une vision du soleil traversant à 2 reprises le ciel, et « chasser » était symbolisé par une meute qui avançait en silence et humait l'air. Sans difficulté, Perrine traduisait tout en mots et en concepts. Patience. Oui, c'était bien vu. La précipitation gâchait souvent tout, mais si près du but, se retenir n'était pas toujours facile. Loin de là même, une silhouette émergea d'un des moulins et agita une lançaielle d'avant en arrière. Se fiant au grincement, Perrine avait conclu que les moulins étaient vides, comme lorsque les promis les avaient repérés, un peu plus tôt. Personne, y compris un aïel, n'aurait supporté longtemps ce boucan. Par acquis de conscience, Perrine avait quand même chargé Gaul et quelques promises d'aller vérifier.
« On y va, Mishima !»
souffla-t-il en soulevant ses rênes.
« Les dés sont jetés !»
Pour le meilleur ou pour le pire.
« Comment peux-tu voir quoi que ce soit ?»
marmonna le Séanchanien. Il évitait de tourner la tête vers Perrine, dont les yeux jaunes brillaient dans la nuit. La première fois, il en avait sursauté de surprise. Ce soir, dans son odeur, il n'y avait pas d'étonnement. L'attention primait. Pourtant, il ordonna par-dessus son épaule.
« Apportez-nous les cartes, vite, et en silence, si vous tenez à vos fichus lobes d'oreilles. »
Sans attendre ses compagnons ni les charrettes, Perrine fit avancer sa monture. Avec leur axe copieusement graissé, les grandes roues étaient aussi silencieuses que possible. Mais le bruit des sabots et le craquement du bois des berceaux perçaient les tympans de Perrine. Cela dit, il doutait que quiconque pût les entendre à plus de 50 pas de distance. Et quand on n'avait pas ses oreilles, même de plus près, ce n'était pas gagné d'avance. Au sommet de la colline, le jeune homme mit pied à terre et laissa pendre les rênes de marcheur. Très bien dressé, le cheval ne bougerait pas tant qu'il sentirait qu'elle touchait le sol. Une méthode aussi efficace que le recours à des entraves. Taquinées par la brise, les ailes des moulins grinçaient aussi. Des pales si longues et si larges que Perrine, en sautant sur place, aurait pu en toucher le bout lors de la phase descendante. Tendu, il étudia la dernière colline qui le séparait de Malden. Dans le coin, rien de plus haut qu'un buisson ne poussait. Et pas un brin d'herbe ne bougeait dans les ténèbres. Plus qu'une colline entre Fail et lui. Voilé comme lui, les promises venaient de sortir du moulin pour rejoindre Gaul.
« Personne !»
annonça Layel, sans prendre la peine de chuchoter. S'il l'avait fait, le grincement des engrenages aurait couvert ses propos.
« Depuis ma dernière visite, nul n'a marché dans la poussière !» précisa Souline.
Perrine se gratta la barbe. Une excellente chose, ça. S'ils avaient dû tuer des chats d'eau, ils auraient caché les cadavres. Mais les guerriers manquants auraient attiré l'attention sur les moulins et sur l'aqueduc. Quelqu'un aurait alors pu penser à l'eau.
« Gaul, aide-moi à retirer les dalles !»
Perrine n'avait aucune raison de se charger de ça. Gagner quelques minutes ne changerait rien, mais il avait besoin de s'occuper. Gaul glissa sa lance avec les autres, sous le harnais de l'étui de son arc. À cet endroit, l'aqueduc qui courait tout au long de la crête arrivait à la hauteur de l'épaule de Perrine. Moins que ça pour Gaul, qui l'enjamba sans peine. Peu en aval du duo de moulins, les poignées de bronze fixées à de lourdes dalles de pierre permirent aux deux hommes de les faire glisser sur environ 6 pieds. Perrine ignorait à quoi servait cette ouverture. Cela dit, on trouvait la même près du premier binôme de moulins. Des accès de maintenance, pour décoincer les vannes qui autorisaient la circulation de l'eau dans un seul sens, ou pour procéder à d'autres réparations telles que colmater des fuites? Perrine n'en savait rien. Pensif, il étudia les infimes ondulations de l'eau qui coulaient en direction de Malden. Mishima arriva, mit pied à terre, et lorgna bizarrement Souline et ses promises. Pensant que l'obscurité cachait sa suspicion, il ignorait que son odeur le trahissait. Mishima fut assez vite rejoint par la première Séanchanienne en veste rouge qui finissait de gravir la pente boueuse. Comme ses camarades, elle portait 2 sacs de jute sur le dos. Plutôt gros, mais pas très lourd, 10 livres au maximum. Après avoir jeté un coup d'œil méfiant aux aïels, la femme posa les sacs puis les fendit avec son couteau. Un ruisselet de grains sombres tomba en pluie sur le sol humide.
« Vide tes sacs dans l'ouverture près du moulin !»
ordonna Perrine.
« Et surtout ne gaspille plus le moindre grain !»
La mince Séanchanienne regarda Mishima.
« Obéis au seigneur Perrine, Arata !»
Perrine supervisa l'opération. Quand la Séanchanienne en eut fini, des grains noirs dérivaient déjà vers Malden. Réticent à perdre ne serait-ce qu'un grain, Perrine en avait laissé tomber une pincée dans un gobelet d'eau. Il avait fallu un bon moment pour que les grains absorbent le liquide et sombrent au fond du récipient. Donc, ils arriveraient jusqu'à la grande citerne de Malden. Sinon, ils finiraient par engorger l'aqueduc, et le résultat serait le même. L'eau de la ville deviendrait une infusion géante de fourches racines. Assez forte, si la lumière le voulait. Voire puissante au point d'affecter les guerriers. La cible, c'était les matriarches capables de canaliser. Mais pourquoi cracher sur un petit bonus? Cela dit, la concoction ne devait pas devenir très forte plus vite que prévu. Si les matriarches sentaient mal trop tôt, elles risquaient de comprendre ce qui se passait avant que le jeune homme soit prêt. Il n'y avait aucun moyen de prévoir précisément tout ça. Du coup, il fallait aller de l'avant et croiser les doigts. Quand la Séanchanienne eut vidé son second sac, les autres porteurs apparurent près des moulins. Petite femme volontaire qui tenait sa jupe relevée pour ne pas la laisser traîner dans la boue, Séonide ouvrait la marche. Dès qu'il la vit, Mishima fit un discret geste de protection, contre les démons sans doute. Mais comment pouvait-on croire que des bêtises pareilles agissaient? Une fois alignés, les soldats regardèrent Séonide, la plupart écarquillant les yeux, et beaucoup trépignèrent de nervosité. Les Séanchaniens, à l'évidence, n'aimaient guère collaborer avec une Aes Sedai. Furen et Teril, les champions de Séonide, la suivaient comme son ombre, chacun avec la main droite posée sur le pommeau de son arme. Eux, c'étaient des Séanchaniens qu'ils se méfiaient. Alors que l'un avait la peau noire, ses cheveux crépus triés de blanc, l'autre avait le teint clair et une moustache incurvée couleur aile de corbeau. En réalité, ces hommes se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Des gaillards grands, minces et mortellement dangereux. Rover Kirklin les suivait de très près. Costaud, des cheveux noirs en voie de raréfaction, il tirait franchement la tête. De notoriété publique, il détestait être séparé de Masuri. Dans le dos, les trois hommes portaient un petit sac de vivres et une outre pansue pendait à leur épaule. Près de l'ouverture, un soldat venait de poser ses sacs sur le sol. Sans tarder, la Séanchanienne partit en chercher de nouveau. Les charrettes au pied de la pente étaient chargées jusqu'à la gueule.
« N'oublie pas !»
dit Perrine à Séonide.
« Le plus risqué sera d'aller de la citerne à la forteresse. Vous devrez passer par les remparts. Et il risque d'y avoir des chaïdo en ville, même à cette heure tardive. »
Sur ce point, Alice n'avait pas pu se montrer catégorique. Dans le lointain, le tonnerre rugit par deux fois.
« Un rideau de pluie vous protégera peut-être, »
dit Perrine.
« Merci, »
répondit Séonide, glacial. Visage de marbre, oui, mais voix vibrant d'indignation.
« Si tu ne m'avais pas dit tout ça, je n'aurais pas deviné. »
Un peu adouci, Séonide posa une main sur l'avant-bras de Perrine.
« Je sais que tu t'inquiètes pour Fail. Nous ferons notre possible. »
Un ton chaleureux? Non, il ne fallait pas trop en demander, mais un peu moins de froideur. Et dans l'odeur de Séonide, Perrine sentit comme de l'empathie. Terril aida la sœur à monter sur l'aqueduc, le Séanchanien couvert de cicatrices qui vidait de la fourche racine dedans faillant laisser tomber son sac, puis elle se laissa tomber dans l'eau et fit la grimace parce qu'elle devait être très froide. Baissant la tête, elle s'éloigna en direction de Malden. Fouren la suivit, puis ce fut au tour de Terril et de Rover, presque pliés en deux pour ne pas se cogner le crâne contre la voûte de l'aqueduc. Elias tapota l'épaule de Perrine avant de s'en servir comme point d'appui.
« J'aurais dû couper ma barbe aussi court que la tienne, pour qu'elle ne trempe pas dans l'eau. »
Taquiné par le vent, l'appendice pileux tombait en effet jusqu'à son nombril. Faisant le pendant, ses cheveux tenus par une lanière de cuir taquinaient sa taille. Comme les autres, il portait un petit sac de vivres et une outre d'eau.
Cela dit, il n'y a rien de mieux qu'un bain froid pour remettre en place les idées d'un homme.
« Je croyais que ça aidait à ne pas trop penser aux femmes, »
fit Perrine. Il n'était pas d'humeur à plaisanter, mais comment exiger que tout le monde soit aussi déprimé que lui ? Elias éclata de rire.
« Et d'après toi, qu'est-ce qui dérange les idées d'un homme ?»
Il se laissa tomber dans l'eau, et Talanvor vint prendre sa place.
« Pas d'héroïsme surtout, »
dit Perrine en le retenant par la manche de sa veste sombre. Pendant longtemps, le mari de Fail avait hésité à inclure Talanvor dans l'équipe.
« Rien d'héroïque, seigneur. »
Pour la première fois depuis longtemps, l'Andorien avait l'air enthousiaste. Et ça se confirmait dans son odeur, avec une nuance de prudence cependant. C'était ça qui avait fait pencher la balance en sa faveur.
« Je ne ferai pas courir de risque à Megdin, ni à Dame Fail. Mon seul désir, c'est de revoir Megdin le plus vite possible. »
Perrine acquiesça et lâcha l'officier. Ce sentiment, il pouvait le comprendre. Une part de lui brûlait d'envie d'entrer dans l'eau, pour revoir Fail le plus vite possible, justement. Mais chaque partie du plan devait être réalisée avec soin, et il serait plus utile ailleurs. En outre, s'il s'infiltrait dans Malden, il doutait de pouvoir s'empêcher de chercher Fail. Sa propre odeur, il ne pouvait pas la sentir, bien sûr, mais il aurait parié qu'on n'y captait pas une ombre de prudence. Toujours poussé par le vent, les ailes des moulins grinçaient de plus en plus. Ici, la brise ne mourait jamais, semblait-il. Tant mieux, parce que si l'eau cessait de couler, ce serait un désastre. Le sommet de la colline grouillait de monde à présent. En colonne, 20 fanatiques de Fail attendaient d'entrer dans l'aqueduc. Tous ceux qui restaient, à part les deux chargés d'espionner Massema. Vêtus comme des hommes, les femmes portaient les cheveux courts, à l'exception d'une queue de cheval semblable à celle des Aïels. Mais aucun guerrier du désert n'aurait trimballé une épée. Parce que les Aïels étaient glabres, la plupart des Théariens avaient rasé leur barbe. Derrière les jeunes gens, 50 gars de deux rivières attendaient aussi leur tour. Chacun portait une hallebarde, un arc débandé, la corde bien au sec dans une de ses poches, et trois carquois pleins de flèches. Tous les hommes du camp s'étaient portés volontaires pour cette mission. Du coup, Perrine avait dû recourir à un tirage au sort. Un moment, il avait envisagé de passer à 100 têtes, voire plus, mais ça n'aurait pas été raisonnable. Comme les fidèles de Fail, les gars de Deux-Rivières étaient lestés d'une outre et d'un petit sac de vivres. Les soldats séanchaniens, quant à eux, continuaient de faire la navette avec des sacs de fourches racines. Des gens très disciplinés. Quand l'un d'eux glissait dans la boue et s'étalait, on n'entendait ni jurons, ni murmures. Stoïque, l'homme ou la femme se relevait et reprenait son chemin. Vêtu d'une veste sombre ornée de six rayures de couleur horizontale, Sélandé d'Arangil tendit sa main à Perrine pour qu'il la serre. Minuscule, elle n'en maniait pas moins l'épée avec talent, s'il fallait en croire Elias. Malgré leur lubie ridicule, copier les Aïels, Perrine ne tenait plus la jeune femme et ses camarades pour une bande de crétins, enfin, pas en permanence. Et à des degrés différents selon les individus. Sa queue de cheval tenue par un ruban noir, Sélandé dégageait une odeur de détermination. Chez elle, on ne sentait pas du tout de peur.
Seigneur, merci de nous avoir autorisés à venir,
dit-elle, avec toute la rigueur et la précision de son parler kerienien.
Nous ne te décevrons pas, et pas davantage, dame Feil.
J'en suis certain, souffla Perrine.
À une époque, la jeune femme insistait lourdement sur le fait qu'elle servait Feil, pas son mari. Le jeune seigneur serra la main de tous les faux Aiel avant qu'ils entrent dans l'aqueduc. Tous exhalaient une senteur de détermination sans faille. Il en allait de même pour Ban Alcine, qui commandait les gardes de rivière.
Quand Feil et les autres seront arrivés, barricade les portes extérieures, Ban.
Les consignes, Ban les avait déjà entendues 100 fois. Mais Perry ne put pas s'empêcher de les répéter.
Après, vois si tu peux les conduire jusqu'à l'aqueduc et filer.
La forteresse n'avait pas résisté au Shaido la première fois. Ce coup-ci, en cas de problème, elle ne tiendrait sûrement pas mieux. Perrine n'entendait pas se dédire de l'accord avec les Séanchaniens. Les Shaido devaient payer pour ce qu'ils avaient infligé à sa femme, et il ne pouvait pas les laisser derrière lui pour qu'ils continuent à ravager le pays. Mais sa priorité restait de mettre Feil à l'abri le plus vite possible. Ban appuya son arc et sa hallebarde contre l'aqueduc, se hissa dessus et plongea un bras dans l'eau. Quand il se laissa retomber sur le sol, il sécha sa main sur le devant de sa veste, puis pinça son gros nez.
Au fond, il y a une couche de vase. Seigneur Perrine, nous allons avoir du mal à descendre jusqu'en ville sans glisser tout du long. Quant à reprendre le même chemin en sens inverse, le mieux, je crois, serait d'attendre dans la forteresse.
Perrine soupira de frustration. Il avait bien pensé à une enfilade de cordes, mais la pente en question était longue de près d'une demi-lieue. Un fardeau presque inenvisageable pour les hommes. Et si un Shaido repérait le bout pendant, à Malden, il donnerait l'alerte et les guerriers fouilleraient la cité de fond en comble. Un risque très limité? Certes, mais à l'aune de la catastrophe que ça pouvait provoquer, le jeu n'en valait pas la chandelle.
Je ferai le plus vite possible, Ban. Tu as ma parole.
Perrine serra également la main de tous les gardes de rivière. Todd Alcar, au menton en galoche. Leof Thorfinn, avec la cicatrice qui barrait son cuir chevelu, un souvenir des Trollocs. Le jeune Kenly Maerin, qui essayait de nouveau de se laisser pousser la barbe. Billy Adara, un peu plus petit que lui, mais presque aussi large d'épaule. Un lointain cousin, et pourtant, un des plus proches parents vivants de Perrine. Même si quelques-uns étaient plus âgés que lui, le jeune seigneur avait grandi avec eux. D'ailleurs, certains auraient pu être ses frères cadets. Désormais, il connaissait aussi bien les gars de promenade de Deven ou de Colline de la Garde que ceux de Champ des Mondes. Pour atteindre le plus vite possible la forteresse, Feil ne serait pas sa seule motivation. Ad Allora, un type très mince à la moustache digne de celle d'un tarabonnet, fut le dernier à se laisser tomber dans l'aqueduc. À cet instant, Gaul arriva. Il serrait 4 lances dans sa main gauche.
« Tu y vas ?»
s'étonna Perrine.
« Les promises te serviront d'éclaireuse, Perrine Aibra. »
Par-dessus son épaule, le grand Aiel jeta un coup d'œil aux guerrières. Perrine eut l'impression qu'il les foudroyait du regard, mais c'était difficile à dire, avec le voile noir qui laissait uniquement voir les yeux de son ami.
« Je les ai entendus parler, alors qu'elle croyait que je n'écoutais pas, à l'inverse de ta femme et de ses compagnes. Shiad est une vraie Gaishine. Bane aussi, mais je ne me soucie pas d'elle. Quand nous l'aurons secourue, Shiad devra servir jusqu'au terme de son engagement, 1 an et 1 jour. Quand un homme a une femme pour Gaishine, ou l'inverse, il arrive qu'une couronne de mariage soit tressée dès que la tenue blanche peut être jetée aux orties. Ça n'a rien d'inhabituel. Mais les promises veulent trouver Shiad avant moi pour me la prendre. »
Derrière Gaul, les doigts de Souline s'agitaient, le langage par geste des promises. Et une des guerrières mit une main devant sa bouche pour étouffer un rire. Ainsi, ces femmes provoquaient Gaul. Au fond, elles étaient peut-être moins opposées qu'elles le prétendaient à son désir d'épouser Shiad. Sauf si quelque chose échappait à Perrine. L'humour à Yael pouvait être très cruel. Gaul se laissa tomber dans l'eau. Avec sa taille, il dut se plier en deux pour ne pas s'assommer. Perrine regarda longuement l'ouverture. Il aurait été si simple de suivre le grand Aiel. Ne pas le faire, au contraire, lui coûta un gros effort. Sur la pente, les Séanchaniens allaient et venaient toujours.
« Mishima, je retourne dans mon camp. Quand tu en auras terminé ici, Grady te renverra dans le tien. Efforce-toi de brouiller nos traces. »«
Compris, seigneur. » J'ai ordonné à quelques hommes de prélever de la graisse sur les axes de roues et d'en tartiner les engrenages des moulins. On croirait qu'ils vont se désintégrer dans la minute.
Alors qu'il s'agissait des rênes de marcheurs, Perrine leva les yeux sur les ailes qui tournaient lentement. Lenteur et régularité. Elle n'avait jamais été conçue pour autre chose.
Et si un Shaido monte ici demain et se demande d'où sort cette graisse toute fraîche?
Dans la pénombre, Mishima dévisagea longuement Perrine. Pour une fois, il ne semblait pas gêné par ses yeux jaunes. Dans son odeur, on sentait de la surprise.
« La générale de Bagnères avait raison à ton sujet, » dit-il.
« Raison sur quoi ?»«
Il faudra que tu le lui demandes, seigneur.
Perrine descendit la pente et s'enfonça sous les arbres en songeant qu'il aurait été facile de faire demi-tour. Ici, Galen pourrait aisément prendre les choses en main. Tout n'était-il pas planifié? Sauf que toute bataille, selon cet énergumène, devait comporter une héroïque charge de cavalerie. De préférence au début, bien sûr. Combien de temps s'en tiendrait-il au plan? Arganda était plus malin, mais il se rongeait les sangs pour la reine Aliandre. Une angoisse qui risquait aussi de l'inciter à la précipitation. Du coup, il ne restait que Perrine. À cause du vent mordant, il resserra sur son torse les pans de son manteau. Dans une petite clairière, Grady, les coudes sur les genoux, était assis sur un rocher moussu à moitié enfoncé dans la terre. Un bloc datant de la construction de l'aqueduc, très certainement, parce qu'il y en avait d'autres alentour. À cause du vent, Perrine ne parvint pas à capter l'odeur de Grady, qui daigna relever les yeux uniquement quand le jeune seigneur immobilisa sa monture devant lui. Le portail par lequel ils étaient tous venus restait ouvert. De l'autre côté, on distinguait une clairière très semblable à celle-ci, non loin du site où campaient désormais les Séanchaniens. Il aurait été plus facile de partir d'un point plus proche du camp de Perrine, mais il entendait garder les Aes Sedai et les matriarches aussi loin que possible des Suldam et des Daman. Il ne redoutait pas que les Séanchaniens renient la parole donnée par Tai Li. En revanche, les sœurs et les matriarches montaient sur leurs grands chevaux dès qu'on leur parlait d'une Daman. Selon toute probabilité, les matriarches et Anura se retiendraient tant que durerait la crise. Selon toute probabilité, oui. Mais qu'en serait-il de Masuri? Sur elle, il y avait plus que des doutes. Tant que c'était gérable, mieux valait laisser autant de distance que possible entre ses femmes et lui.
« Tu vas bien, Grady ?»
demanda Perrine. Le visage parcheminé de la chamane semblait avoir acquis de nouvelles rides. Une illusion due à la lumière nocturne? Perrine aurait juré que non. Les charrettes étaient passées sans souci via le portail sophistiqué de Grady. Mais n'était-il pas un peu plus petit que le précédent?
« C'est juste un peu de fatigue, seigneur, »
répondit Grady d'un ton las. Il ne bougea pas, les coudes toujours calés sur les genoux.
« Tous ces portails, ces derniers jours, eh bien, j'aurais eu du mal à garder le passage ouvert assez longtemps pour que tant de soldats s'y engouffrent. C'est pour ça que j'ai décidé de le nouer. »
Perrine hocha la tête. Les deux achamans étaient fatigués. Canaliser le pouvoir drainait les forces d'un homme aussi sûrement qu'une journée à jouer du marteau devant une enclume. Plus sûrement, même. Car si le forgeron pouvait continuer malgré la fatigue, la chamane en était incapable. C'était pour ça que l'aqueduc serait la route menant à Malden, et qu'on ne pourrait pas en partir par un portail, même si Perrine aurait tout donné pour que ce soit possible. Avant de s'être reposé, les deux achamans ne seraient pas capables de grand-chose, et ce « grand-chose », justement, on allait en avoir besoin ailleurs. Quelle idée angoissante! Si Grady et Néald ne parvenaient pas à ouvrir le dernier portail requis, beaucoup d'hommes périraient. Une décision difficile.
« J'aurai besoin de vous deux après-demain, »
dit-il à Grady. Autant annoncer qu'il avait besoin d'air pour respirer. Sans les achamans, rien n'était possible.
« Attendez-vous à être très occupé. »
Un sacré euphémisme.
« Occupé comme des manchots qui replâtrent un plafond, seigneur.
Tu seras à la hauteur ?»«
Il faudra bien, non ?»
Perrine hocha de nouveau la tête. Faire ce qui devait être fait, toujours.
« Envoie-moi dans notre camp. Après avoir transféré Mishima et ses hommes dans le leur, toi, Néald et les promises, vous pourrez dormir ici si ça vous chante. »
Une façon d'épargner un peu Grady jusqu'au jour fatidique.
« Je ne peux pas parler au nom des promises, seigneur, mais moi, je préférerais retourner au camp. »
Sans se lever, Grady tourna la tête vers le portail, qui se mit en rotation dans le sens inverse de l'ouverture, la vue se réduisant jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une barre d'argent verticale, qui disparut en laissant des points lumineux pourpres danser devant les yeux de Perrine.
« Ces Daman me glacent les seins, »
lâcha Grady.
« Elles refusent d'être libres. »
« Comment sais-tu ça ?»«
Je leur ai parlé, enfin, à certaines, quand il n'y avait pas de fichu Suldam dans les environs. Dès que j'ai avancé qu'elles aimaient leur maudit collier, une simple hypothèse, rien de plus, elles ont appelé les Suldam au secours. Alors que ces fichus Daman pleuraient, leurs nounous les ont cajolés en me foudroyant du regard. J'en ai eu la chair de poule. »
Marcheur commençant à s'impatienter, Perrine lui flatta l'encolure. Grady pouvait se féliciter que les Suldam les laissaient repartir avec l'intégralité de sa peau.
« Quoi qu'il doive se passer avec les Daman, Grady, ce ne sera pas cette semaine ni la suivante. Et ça ne dépendra pas de nous. Alors fiche la paix à ces femmes. Nous avons bien plus urgent à faire. »
Et un pacte avec le ténébreux les aiderait. Perrine chassa cette idée de sa tête. De toute façon, il avait de plus en plus de mal à considérer Tai Li ou Mishima comme des alliés des ténèbres.
« Tu as bien compris ?»«
Oui, seigneur. Je dis juste que ça me flanque la trouille. »
Une nouvelle fente verticale apparut, tourna sur elle-même et s'ouvrit, pour montrer une clairière nichée entre des arbres largement espacés et une muraille de pierre. Se couchant sur l'encolure de marcheur, Perrine traversa le passage, qui s'éteignit dès qu'il fut de l'autre côté. Très vite, Marcheur déboula dans la grande vallée où s'étendait le camp, près de ce qui était naguère le minuscule village de Britanne, une série de taudis infestés de vermine qui auraient repoussé n'importe quel homme, même par une nuit d'orage. Les sentinelles postées dans les arbres ne donnèrent pas l'alerte. Quand même, elles étaient capables de reconnaître leur seigneur. Perrine se demanda s'il désirait quelque chose davantage que son lit de camp. Fail, bien sûr. Mais en son absence, il voulait être seul dans le noir. Très probablement, il ne trouverait pas le sommeil, passant la nuit à se souvenir de son épouse et à repenser au passé. Peu avant la palissade de pieux qui entourait le camp, le jeune seigneur tira pourtant sur ses rênes. Juste devant l'enceinte défensive, un raken était accroupi sur le sol, son long cou tendu à l'horizontale, afin qu'une femme au manteau à capuche marron puisse lui caresser le museau. La capuche abaissée révélait des cheveux coupés courts, encadrant un visage étroit. La femme regarda Perrine comme si elle le reconnaissait, mais elle continua à caresser le monstre. Sur le dos du raken, Perrine remarqua la présence de deux selles. Un messager était venu ici, à l'évidence. Perrine slaloma entre les pieux et gagna l'entrée. Une opération délicate qu'il ne fallait jamais vouloir faire très vite. Dans le camp, presque tout le monde était couché. Près des chevaux, quelques ombres remuaient, sûrement des palefreniers ou des maréchaux ferrants kérieniens. Mais partout, les tentes rapiécées et les abris de fortune étaient sombres et silencieux. Rien ne bougeait du côté des tentes basses des Aguelles, et quelques gardes seulement allaient et venaient dans le plus proche secteur du camp réservé aux hommes de Berylane. Les guerriers de Mayenne et ceux du Gealdan ne se fiaient pas aux sentinelles des gardes de rivière, toutes postées dans les arbres. Sous la grande tente rayée de rouge de Perrine, encore éclairée, on distinguait les ombres des hommes et des femmes qui s'y agitaient. Quand Perrine eut mis pied à terre devant son fief, Atan Chandin accourut pour prendre les rênes de Marcheur. Une main sur le front, il esquissa une vague sorte de révérence. C'était un archer d'élite, sinon il n'aurait pas été ici, mais son éternelle soumission pouvait déplaire. Perrine entra en retirant son manteau.
« Te voilà enfin !»
s'écria Berylane, rayonnante. Elle devait s'être habillée à la hâte, parce que ses longs cheveux noirs auraient eu rudement besoin d'un coup de brosse. Cela dit, sa robe d'équitation à col montant était immaculée. Même en campagne, ses domestiques ne lui laissaient enfiler aucun vêtement sans l'avoir repassé. Berylane tendit son gobelet à Bréane afin qu'elle le remplisse de vin. La kérienienne obtempéra de mauvaise grâce. Dame de compagnie de Fail, elle abominait la première dame de Mayenne.
« Pardon de m'être incrustée sous ta tente, »
dit Berylane.
« Mais la générale de Bannière voulait attendre, et j'ai décidé de lui tenir compagnie. Elle vient de nous parler des capes blanches. »
Comme souvent, Balwer se tenait dans un coin, aussi discret qu'un caméléon perché sur une branche. À la mention des capes blanches, Perrine sentit de l'agressivité dans son odeur. Dans une tenue qui rappelait celle des pilotes de Raken, Tali s'inclina vaguement tout en gardant un œil sur Anora. Croyait-elle vraiment que la sœur, en un clin d'œil, pouvait se métamorphoser en chien enragé? Même si on ne voyait rien sur son visage à la peau sombre, Perrine capta de la détresse chez la Seanchanienne.
« Seigneur, j'ai deux nouvelles qu'il m'a semblé urgent de te transmettre. As-tu commencé à verser la fourche racine dans le réseau d'eau de la ville ?»«
Oui, »
répondit Perrine, soudain inquiet. Quand il jeta son manteau sur le dossier d'une chaise, Tali soupira d'agacement.
« Je te l'ai déjà dit. Ce serait fait depuis deux jours si cette fichue dingue, Al-Mizar, n'avait pas traîné les pieds. Que se passe-t-il »«
Excusez-moi, »
dit Lini.
« Mais on m'a sorti du lit et j'aimerais bien y retourner. Quelqu'un a encore besoin de moi ?»
La femme aux cheveux blancs ne ponctua sa tirade d'aucune formule de politesse, pas même un seigneur distrait. Contrairement à Berylane, sa robe était froissée, une rareté chez elle. Piquante, son odeur empestait la désapprobation. Hélas, elle appartenait au camp qui croyait dur comme fer que Perrine, le soir de la capture de Fail, avait couché avec la première dame. Du coup, elle réussissait à ne jamais regarder le coupable, même quand elle lui parlait.
« Je voudrais encore du vin, »
fit Aram en tendant son gobelet. L'air sinistre et les yeux rouges, il tenta de s'asseoir sur une chaise de campagne, mais avec une épée accrochée dans le dos, c'était un exploit irréalisable. Bréane fit mine de le servir.
« Il a assez bu !»
lâcha Lini. Bréane se pétrifia. Sur elle et les autres domestiques de Fail, la vieille dame avait une emprise surprenante. Aram marmonna un juron, bondit sur ses pieds, jeta au loin son gobelet et marmonna.
« Je file quelque part où aucune vieille grincheuse ne me cassera les pieds quand je boirai un coup. »
Avant de sortir, l'ancien Zingaro foudroya Perrine du regard. Sans nul doute, il allait prendre la direction du camp de Massema. Avant la mission, il avait lourdement insisté pour en être, mais qui se serait fié à un tel excité ?«
Lini, tu peux te retirer, »
dit Berylane.
Brian s'occupera parfaitement bien de nous. »
En guise de protocole, Lini se contenta d'un bruit de gorge. Toujours indignée, le dos soudain bien droit, elle sortit sans adresser un regard à Perrine.
« Excuse-moi, Seigneur, »
fit Tylee d'un ton apaisant.
« Mais tu diriges ta maison d'une main plus bienveillante que chez moi. Beaucoup plus bienveillante même. »«
Ce sont nos coutumes, Général de Bannière, »
répondit Perrine en récupérant le gobelet d'Aram. « Pourquoi en salir un autre ?»«
Ici, personne n'est l'esclave de personne. »
Une remarque acerbe ? Eh bien oui. Alors qu'il appréciait de plus en plus Tylee, les coutumes des Séanchaniens continuaient à lui rester coincées dans le gosier. Perrine prit la carafe à Brehan, qui s'y accrocha comme si elle refusait qu'il boive, se servit et la laissa récupérer son bien.
« Alors, que se passe-t-il ? Et qu'y a-t-il avec les capes blanches ?»«
Avant l'aube et après le coucher du soleil, j'envoie des rakens survoler le terrain jusqu'à ce qu'ils soient trop fatigués pour continuer. Un de mes équipages ce soir est rentré plus tôt que prévu. Le pilote a vu 7000 fils de la lumière en mouvement à moins de 10 lieues de mon camp.
« Ils fondent sur toi ?»
demanda Perrine en sondant son vin, les sourcils froncés.
« 7000, c'est un compte sacrément précis, en pleine nuit. »
« Ces hommes semblent être des déserteurs, »
intervint Anoura.
« En tout cas, la générale de Bannière les considère comme tels. »
En robe de soie grise, Anoura était aussi bien mise que si elle avait passé une heure à s'habiller. Quand elle tendit le cou pour mieux observer Tylee, son nez crochu lui donna l'allure d'un corbeau aux cheveux piquetés de perles. Elle tenait un gobelet de vin, mais ne devait pas y avoir beaucoup touché.
Selon certaines rumeurs, Pedron Nial serait mort en combattant les Séanchaniens, mais son successeur, Eamon Valda, s'est rallié à l'impératrice ennemie.
La sœur marquant une pause, Tylee eut une étrange moue avant de souffler.
Puisse-t-elle vivre à jamais?
À part lui, Perrine doutait que quiconque ait entendu. Balwer ouvrit la bouche, mais la referma sans dire un mot. Pour lui, les capes blanches étaient un sujet sensible.
« Il y a environ un mois, » reprit la sœur grise, « Galad d'Amodred a tué Valda et entraîné 7000 fils de la lumière à renier leur engagement auprès des Séanchaniens. Je déplore depuis le début que ce garçon se soit enrôlé dans les capes blanches, mais sera finalement eu du bon. Quoi qu'il en soit, une sentence de mort pèse sur tous ces hommes. Ai-je bien résumé la situation, général de Bannière ?»
La main droite de Tylee se crispa, comme si elle se retenait de conjurer le mal avec un de ses signes rituels.
« C'est un survol très pertinent, oui. »
Un commentaire adressé à Perrine, pas à Anoura. Pour Tylee, converser avec une Aes Sedai semble être une épreuve inhumaine.
« Sauf la partie sur ce que ça a de bon. Le parjure et la désertion sont rarement louables. »«
J'imagine que ces hommes ne se dirigent pas vers toi, sinon tu l'aurais dit. »
Une question purement rhétorique. Sur ce sujet, Perrine n'avait pas l'ombre d'un doute.
« Ils vont vers le nord, » répondit Tylee.
De nouveau, Balwer ouvrit la bouche, puis se força à la refermer.
« Si tu as un avis, »
dit Perrine au petit secrétaire,
« donne-le.
Mais je me fiche du nombre de fils de la lumière qui se sont détournés des Séanchaniens. Tout ce qui compte à mes yeux, c'est Fail. Et je doute que la générale de Bannière, afin de les traquer, renonce à une occasion de mettre en laisse quelques 400 damans supplémentaires. »
Berelaine fit la grimace. Anoura resta de marbre, mais elle but une longue gorgée de vin. Parmi les Aes Sedai, aucune ne se sentait très compétente sur cette partie du plan. Les matriarches non plus, d'ailleurs.
« Le seigneur Perrine a raison, »
acquiesça Tylee.
« Après tout, je veux bien un peu de vin. »
Avant de faire le service, Brehan inspira à fond. Dans son odeur, Perrine capta une poussée de peur. Sans nul doute, la grande Séanchanienne l'intimidait.
« J'avoue que porter un coup fatal au fils de la lumière ne me déplairait pas, »
dit Balwer de sa voix rauque.
« Mais, pour être franc, j'éprouve de la gratitude envers Galad d'Amodred. »
Avait-il un chien de sa chienne contre Valda, indifférent personnel ?
« Quoi qu'il en soit, mon avis n'a rien de pertinent. À Malden, les événements sont en cours, et s'ils ne l'étaient pas, je doute, Seigneur, que vous les retardiez d'un jour. Et d'ailleurs, je ne vous l'aurais pas conseillé. Si je peux me montrer hardi, « j'apprécie beaucoup, Dame Fail. »«
Tu peux, »
fit Perrine.
« Général de Bannière, tu as parlé de plusieurs nouvelles. »
La Séanchanienne prit le gobelet que lui tendait Brehan et braqua les yeux sur Perrine, si ostensiblement qu'un enfant aurait compris qu'elle refusait de regarder les autres personnes présentes dans la salle.
« On peut en parler en privé ?»
demanda-t-elle. Berelaine approcha de Perrine et lui posa une main sur le bras.
« Anoura et moi ne voyons aucune objection à nous retirer. »«
Lumière !»
pensa le jeune seigneur. Comment pouvait-on penser qu'il y avait quelque chose entre cette femme et lui? Elle était superbe, certes, mais le musc de tigresse en chasse qu'elle dégageait à un moment avait disparu, depuis si longtemps qu'il s'en souvenait à peine. Désormais, les caractéristiques de son odeur, c'était la patience et la détermination. Ayant accepté qu'il aimait Fail, elle entendait la sauver, avec presque autant de ferveur que lui.
« Vous pouvez rester, »
dit-il.
« Quoi que tu aies à dire, général de Bagnères, tous mes amis peuvent l'entendre. »
Hésitante, la Seanchanienne coula un regard en biais à Anoura.
« Deux grands groupes d'Aiel se dirigent vers Malden, »
finit-elle par dire.
« L'un vient du sud-est et l'autre du sud-ouest. Selon les Morat-Traken, il pourrait être là dans 3 jours. »
Soudain, tout sembla onduler devant les yeux de Perrine. Pire encore, il eut le sentiment d'onduler lui-même. Poussant un cri, Brian lâcha sa carafe. Le phénomène se reproduisant, Berelain s'accrocha au bras du jeune seigneur. La main de Tali sembla se pétrifier sur son étrange geste, le pouce et l'index formant un croissant. Une troisième fois, le monde ondula. Perrine eut l'impression d'être une nappe de brouillard. Une nappe dans un monde de brume, alors qu'un vent violent se lèverait bientôt. Berelain, frissonnant, il passa un bras autour de sa taille et elle se serra contre lui. Dans le silence, l'odeur de la peur envahit la tente. Dehors, des gens criaient, et eux aussi semblaient terrifiés.
« Qu'est-ce que c'était ?»
demanda Tylee après un long moment.
« Je n'en sais rien. »
avoua Anoura, le visage de marbre mais la voix tremblante.
« Au nom de la lumière, je n'en ai pas la moindre idée.
On se fiche de ce que c'était !»
dit Perrine. Il ignora les regards noirs de ses compagnons.
« Dans 3 jours, tout sera fini. C'est ce qui compte. »
Fail. Il n'y avait que Fail. Alors que le soleil approchait de son zénith, Fail se sentait déjà épuisé. L'eau du bain de Sevana, qui se lavait 2 fois par jour désormais, n'était pas assez chaude. Et Fail avait reçu une correction comme tout le monde, alors qu'Aliandre et elle étaient là pour frotter le dos de la Yel. Depuis le lever du soleil, plus de 20 Gaishines, originaires des terres mouillées, avaient imploré de pouvoir jurer allégeance à l'épouse de Perrine. 3 d'entre eux avaient proposé une révolte, soulignant qu'il y avait dans le camp plus de Gaishines que de Shaido. Par bonheur, quand Fail leur avait rappelé que les Aiel étaient des guerriers, pas des fermiers et des artisans, ils avaient semblé saisir ce que ça voulait dire. Parmi les captifs, très peu avaient un jour tenu une arme. Quant à l'utiliser, les 3 Gaishines avaient paru comprendre. Mais c'était la première fois que quelqu'un proposait une action violente, juste après avoir prêté serment. En d'autres termes, la pression augmentait, et on se dirigeait vers un massacre, sauf si Fail pouvait intervenir. Et maintenant, ce châtiment injustifié.
« Ce n'est qu'un jeu, Fail Bachéré, » dit le géant Rolan, tandis qu'il remontait une allée boueuse entre les tentes.
L'Aiel semblait amusé, et un petit sourire flottait sur ses lèvres. Un très bel homme, vraiment.
« Le jeu du baiser, c'est ça ?»
Pour amener son compagnon à la réalité, Fail regarda les serviettes pliées sur son bras.
« J'ai du travail, donc pas le temps de jouer. Surtout à ça. »
À cette heure, il y avait très peu d'Aiel dans les rues, essentiellement des ivrognes qui tentaient de regagner leurs tentes. Mais elle n'était pas vide pour autant. Des centaines de Gaishines, originaires des terres mouillées, côtoyaient des gamins qui prenaient un malin plaisir à patauger dans la gadoue. Les Gaishines, eux, ployaient sous le poids des paniers de linge ou des seaux. Parmi eux, certains s'acquittaient de véritables corvées, mais n'étaient pas majoritaires. Dans le camp, il n'y avait pas assez d'ouvrages pour occuper autant de larbins. Pas une raison suffisante, selon les Shaido, pour qu'il y ait des tirs au flanc. En conséquence, ils accablaient leurs Gaishines de tâches imaginaires. Pour éviter de creuser des trous pour être obligé de les reboucher, ou de récurer des chaudrons déjà propres, beaucoup de Gaishines choisissaient de porter quelque chose. Un objet lourd de préférence, histoire d'avoir l'air de trimer. Ça ne dispensait personne des authentiques corvées, mais c'était au moins ça de gagner. Sur ce plan, étant qu'elle porterait le collier et la ceinture d'or de Sevana, Fail n'aurait rien à craindre des Shaido lambda. Mais contre les matriarches, ces objets n'étaient d'aucune utilité. Du coup, elle avait parfois été punie parce qu'elle n'était pas disponible quand Sevana l'appelait. D'où les nombreuses serviettes sur son bras.
« On pourrait commencer par une version pour les enfants, »
insista Rolan.
« Mais les gages, je t'avertis, sont parfois embarrassants. Dans la version pour adultes, ils sont très amusants. Perdre peut être aussi agréable que gagner. »
Fail ne put s'empêcher de rire. Décidément, cet Aiel ne lâchait jamais l'affaire. Du coin de l'œil, Fail vit que Galina fendait la foule dans sa direction. Pour ne pas le laisser traîner dans la boue, elle soulevait l'ourlet de sa robe de soie blanche. Depuis le matin, avait entendu dire Fail, la sœur était de nouveau autorisée à s'habiller. Mais avant, bien entendu, elle avait toujours arboré le large collier et la ceinture d'or incrustée de pierreries. Sur sa tête, tenant ses cheveux coupés très courts, elle arborait une épingle rouge en forme d'arc. Un bijou qu'elle n'avait sûrement pas choisi, selon Fail. Chez Galina, tout ce qui subsistait d'une Aes Sedai, c'était le visage sans âge. À part ça, à son sujet, on ne pouvait être sûr de rien, sinon qu'elle restait très dangereuse. Dès qu'elle eut repéré Fail, Galina s'immobilisa et jeta à Roland un regard hésitant.
« Je vais y réfléchir, Roland. »
mentit Fail. Pas question de se fâcher avec la Yael avant de savoir ce que Galina avait dans le ventre.
« Il me faudra un peu de temps. »
« Avec les femmes, c'est toujours pareil. Pourquoi hésiter à oublier tes malheurs grâce à un jeu innocent ?»
Avant de s'éloigner, Roland caressa la joue de Fail du bout d'un index. Chez son peuple, un tel geste, en public, était l'équivalent d'un baiser. Fail frissonna. Quoi qu'il en fût, ça lui avait fait l'effet d'un baiser. Innocent, le jeu ? Embrasser Roland, elle en était sûre, n'aurait rien d'innocent, au bout du compte. Par bonheur, si Galina était fiable, elle n'aurait jamais l'occasion de le savoir, ni d'avoir quelque chose à cacher à Perrine. Dès qu'elle vit Layel s'éloigner, Galina reprit son chemin.
« Où est-il ? »
demanda-t-elle en serrant le bras de Fail.
« Réponds-moi ! Je sais que tu l'as ! Il faut que tu l'aies !»
Une supplique, quasiment. Les mauvais traitements de Tevara avaient fait voler en éclats la carapace de la Aes Sedai. Fail se dégagea.
« D'abord, redis-moi que tu nous emmèneras, mes amis et moi, lorsque tu partiras d'ici. Je t'écoute ! Et précise-moi quand tu comptes filer. Comment oses-tu me parler sur ce ton ? »
siffla Galina. Pour comprendre qu'elle venait de recevoir une gifle, Fail dut se fier au point lumineux qui dansait devant ses yeux. À sa propre surprise, elle riposta, giflant Galina à la volée. Alors que Fail se retenait de porter une main à sa joue, la sœur ne put s'en empêcher. Stoïque, Fail se prépara au pire. Une attaque avec le pouvoir, peut-être. Mais rien ne se passa. Si quelques Gaishan fixèrent un moment les deux femmes, pas un ne s'arrêta ni ne ralentit vraiment le pas. Tout rassemblement de Gaishan, ou tout ce qui en avait l'air, était un motif de punition collective.
« Dis-moi !»
insista Fail.
« Oui, quand je partirai, je vous emmènerai, tes amis et toi, si tu as l'objet que je désire. Sinon, dans moins d'une heure, Sevana connaîtra ta véritable identité. »
Eh bien, voilà qui était franc et massif, au moins.
« Le bâton est caché en ville. Je vais aller le chercher. »
Fail se détourna, mais Galina la retint par le bras. Les yeux brillants, la sœur baissa le ton, comme si elle s'inquiétait enfin d'être entendue.
« Non, »
dit-elle d'une voix bizarrement tremblante.
« Je ne veux pas courir le risque que quelqu'un te voie. Tu me donneras mon dû demain matin, en ville, dans le sud de la cité, où je t'attendrai. À la porte du bâtiment, j'attacherai un foulard rouge. »
Ce fut au tour de Fail de frémir. Le sud de Malden n'était plus qu'une succession de ruines calcinées.
« Pourquoi choisir ce quartier ? Parce que personne n'y va, idiote ! Donc nul ne nous verra. Demain matin, très tôt. Si tu me déçois, tu le regretteras. »
L'ourlet de sa robe de nouveau relevée, Galina s'enfonça dans la foule. Les yeux rivés sur son dos, Fail plissa le front. Elle aurait dû jubiler, mais ce n'était pas le cas. Désormais, Galina semblait presque folle. Une femme imprévisible, à tout le moins. Cela dit, les Aes Sedai ne pouvaient pas mentir, donc elle ne renierait pas sa parole. Et si elle trouvait quand même un moyen de le faire, Fail avait un plan de secours. Pas très développé cependant, et hautement dangereux. Sinon, il lui resterait Roland et ses jeux douteux. Il fallait que Galina soit sincère. Il le fallait.